Yesterday's discussion on migration confirmed the hierarchy of our aims.
Les discussions menées hier sur le thème de la migration ont confirmé l'ordre de nos priorités, lesquelles sont la protection de notre territoire, la protection de nos frontières externes et l'endiguement de l'immigration illégale. La question des quotas demeure un sujet sensible, mais largement moins litigieux. Rien que pour cela, il a été salutaire d'en parler. Un compromis sera-t-il envisageable? Cela paraît bien difficile. Mais j'espère qu'avec le débat d'hier, nous avons au moins préparé le terrain. Désormais, nous devons travailler dur pour trouver un compromis d'ici le mois de juin.
Donald Tusk, l'Européen, à l'occasion d'un énième sommet consacré à la question migratoire. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi la crise des migrants fracture-t-elle l'Europe, suite de notre journée spéciale, avec le démographe et historien Hervé Lebras, directeur de recherche émérite à l'INED, directeur d'études à l'EHESS. Il est l'auteur de « Le mystère français » avec Emmanuel Todd, paru au Seuil en 2013, d'un atlas des inégalités ou encore de « L'âge des migrations » aux éditions Autrement. Et puis de « Malaise dans l'identité » paru cette année chez Actes Sud, où il constate qu'immigration et émigration sont aujourd'hui les deux manifestations visibles et complémentaires d'un nouveau régime mondial. On va en parler ensemble. Un constat pour tous aujourd'hui, fracture entre l'Est et l'Ouest, fracture aussi et division au sein de nos sociétés, on le voit actuellement en France. Ce lundi, journée mondiale des migrants avec France Culture, toutes les émissions s'interrogent sur cette question face à la crise migratoire. L'Europe est-elle à la dérive? Alors ce matin, Hubert Védrine nous disait que les distinctions droite-gauche sont dépassées quand il s'agit de la question migratoire. Tout comme Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA à l'instant dans votre journal, Antoine Mercier, il estimait qu'en matière d'accueil des migrants, les Européens n'ont pas suffisamment harmonisé les procédures et les demandes, qu'il faut créer un office européen des demandeurs d'asile et mettre fin à la Convention de Dublin qui est inéquitable. Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour.
La crise des migrants, 2 ans que cette question est à l'ordre du jour des sommets qui se succèdent de l'Union européenne. Pourquoi est-ce si long et si compliqué d'abord d'aboutir à un résultat?
Parce que la migration est en fait peut-être le sujet le plus difficile à unifier dans l'Europe. On pourrait penser que des sujets économiques sont plus difficiles, mais la migration touche à l'identité de chaque nation, comme elle l'affirme, et surtout à leur histoire. La plupart des nations d'Europe ont des passés vis-à-vis de l'immigration extraordinairement différents, et ça touche aussi leur opinion politique, qui est de plus en plus sensible aux sirènes de l'extrême droite sur ce sujet, avec des thèmes, j'ai entendu ce que vous venez de rappeler de Donald Tusk, mais par exemple, employer le mot « endiguement » est un terme qui est quand même très déplaisant, et qui est très déplaisant dans la mesure où, certes, il y a eu une poussée à cause d'événements très spéciaux en Syrie de l'arrivée de migrants en Europe, mais même cette poussée est moins forte que l'accueil légal, les cartes de séjour d'au moins 1 an qui sont données dans l'ensemble de l'Europe, et il y en a 2 600 000 l'année dernière. Donc la migration maintenant fait partie de la vie de nations dans un monde qui est globalisé.
Tout stop, hein, c'est aussi notre traduction, l'endiguement, Hervé Lebras. Vous traduiriez comment la réponse européenne? En quels termes se formule-t-elle? Parce que vous dites que c'est une question d'identité pour les nations, mais cette question migratoire est aussi une question d'identité pour l'Europe comme continent politique, non?
Je pense guère, parce que là, il y a vraiment de telles différences qu'on ne peut pas dire que la réaction de chaque pays soit une réaction qui corresponde à l'Europe. Si je prends au fond 2 extrêmes qui sont l'Espagne et la Pologne refuse d'accueillir, malgré la demande de Bruxelles, 500 réfugiés originaires du Proche-Orient. L'Espagne a accueilli un peu plus de 1 million de Marocains, dont une grande partie d'ailleurs, avec la crise en Espagne, sont repartis. Et les réactions des deux pays sont extraordinairement différentes. Dans le même temps, en Pologne, j'étais récemment sur cette question des migrations, on pense qu'il y a, il n'arrive pas à le mesurer exactement, entre 500 000 et 1 million d'immigrés ukrainiens. Et là, par contre, les Polonais n'y voient pas de gros obstacles. Donc la question de la religion qui est posée par derrière la migration, sous prétexte que les personnes viennent de pays qui sont des pays musulmans en majorité, pas totalement, l'assimilation de musulmans à terroristes joue, et surtout dans un pays catholique comme la Pologne. Inversement, vous me diriez, l'Espagne est très catholique, mais son voisinage avec le Maroc est relativement pacifié. Les personnes qui tentent de franchir actuellement et qui ne sont pas très nombreuses le détroit de Gibraltar sont essentiellement des Africains de l'Ouest et pas des Marocains.
Vous évoquez les refus de la Pologne. On discute aussi autour de la question des mécanismes de quotas permanents. On passe d'être abandonné, de la réforme ou pas du système de Dublin. Mais au-delà de ça, sur la philosophie de cette réponse européenne, vous diriez que le principe de solidarité est définitivement remisé aujourd'hui au profit d'un principe de sécurité, ou c'est pas si simple ?
Oui, il est remisé dans un contexte qui est quand même particulier, parce qu'on est sous le coup de l'émotion des réfugiés et de l'attitude, je dirais, courageuse de l'Allemagne d'accueillir ces réfugiés. En même temps, l'Allemagne a accueilli, actuellement, on est à peu près au niveau de un peu plus de 500 000 demandes d'asile de la part de Syriens. Il faut rappeler qu'il y a 3 millions de Syriens en Turquie, 1 million en Jordanie, 1,5 million au Liban, il y en a même en Irak, et qu'il y a 7 millions de déplacés internes en Syrie. Donc c'est un petit morceau. Alors bien sûr, ces chiffres-là font peur, mais enfin, heureusement, il n'y aura pas de problème, je l'espère, comme la Syrie, en permanence. Et l'aspect courant des migrations, c'est des migrants qui sont acceptés, qui reçoivent une carte de séjour pour des motifs humanitaires, mais surtout pour du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est maintenant en majorité des parents de Français, c'est-à-dire c'est des conjoints de Français ou des enfants de Français qui ont été naturalisés, et puis une migration économique un peu plus faible, et surtout une migration étudiante. C'est plus du tiers des cartes de séjour données en France et d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, c'est pour des premières inscriptions d'étudiants dans nos universités, ce qui est essentiel pour la mondialisation.
Alors vous êtes en train de nous dire que bon, il y a la guerre en Syrie, des conflits forcément conjoncturels, mais globalement, il n'y a pas de poussée migratoire économique du sud vers le nord, comme certains le prétendent, ou c'est simplement un flux qui est relativement normal et qui a toujours alimenté le rapport entre les deux continents.
Oui, si on regarde les chiffres, il y a une augmentation relativement modeste des flux autres que les flux de réfugiés depuis d'ailleurs très longtemps. Et c'est le chiffre que j'ai donné, on est à 2,6 millions entrées légales en Europe. Mais il faut bien voir que ce flux est compensé par des flux en sens inverse d'Européens qui quittent l'Europe, ou même dans chaque pays. Par exemple, si vous prenez la France, reçoit dans les dernières années 220 000 migrants d'origine ayant une nationalité étrangère. Mais il y en a une partie qui repartent, à peu près 70 000. Mais dans le même temps, vous avez 200 000 Français qui quittent la France et 200 000 nés en France français, et c'est-à-dire on dit non-immigrés, et 100 000 seulement qui reviennent. Donc vous avez d'un côté une sorte de surplus de l'étranger qui est de 150 000 personnes, mais de l'autre côté, vous avez un déficit de 100 000. Et le solde qui est de 50 000 est quand même très modeste pour un pays qui fait 65 millions d'habitants. Alors, bien sûr, c'est pas exactement les mêmes populations, mais ça participe du fait que si les Français partent à l'étranger, c'est aussi parce qu'ils appartiennent à des entreprises françaises, à des universités. Ceux qui reviennent reviennent quand même en moins grand nombre. Il faut aussi considérer ce point, parce qu'il y a une sorte de hiérarchie mondiale des migrations qui s'est créée, où on est comme attiré par un aimant par l'Amérique du Nord et aussi en partie par l'Angleterre et la Suisse.
Donc il n'y aurait pas de problème, en fait, pour résumer.
Si, il y a des problèmes, parce que les populations qui arrivent ne sont pas les mêmes, mais je pense que le problème, dans un pays comme la France, c'est pas vrai pour d'autres pays d'Europe, bien sûr, c'est pas vrai pour les pays de l'Est, mais dans un pays comme la France, la question migratoire est surtout posée par c'est une question qui n'est pas migratoire, c'est-à-dire elle est posée par les problèmes rencontrés avec la seconde génération de l'immigration des années 60 à un peu fin des années 70, début 80, et cette première migration qu'on est allé chercher avec des rabatteurs au sud de l'Algérie et au sud du Maroc, c'était des personnes qui étaient très peu, c'était alphabétisé souvent, mais très peu doté de diplômes, si vous voulez, c'était de la main d'œuvre pour travailler sur les chantiers, sur toutes les bâtiments et les routes de France, ou bien à la chaîne. Et ces personnes avaient en moyenne 6 enfants, parce qu'à un moment donné, elles ont été bloquées en France par la fermeture des frontières, et donc elles ont fait venir leur famille, c'est le regroupement familial, et ces familles étaient de 6 enfants. Et ces 6 enfants, c'est difficile quand vous êtes un immigré très peu diplômé, avec 6 enfants, sans grande relation, de vivre en France. Donc ils ont eu une éducation qui n'a pas toujours été très bonne, qui est remarquable quand on regarde les chiffres, quant à leur point de départ, mais qui posent des problèmes et qui sont des problèmes sociaux. Or, en France, on assimile ces problèmes sociaux, qui est cette prise en charge de la seconde génération dite de l'immigration, avec l'immigration elle-même. Mais l'immigration actuelle n'est plus du tout de même nature. Dans les chiffres donnés il y a 2 ans sur, justement, quel était le niveau de diplôme des personnes qui ont reçu une carte de séjour, donc un peu plus de 200 000, 65% avaient un diplôme égal au bac ou supérieur au bac, donc un diplôme universitaire. Bien sûr, il reste 35% qui sont beaucoup moins diplômés, mais il faut voir maintenant que la masse de la migration qui nous arrive, c'est une migration de diplômés, et c'est une migration de diplômés, et ça c'est l'avenir, parce que le Sud est de plus en plus éduqué. Je donne parfois un chiffre qu'on peut trouver facilement d'ailleurs à l'UNESCO, dans les annuaires marocains. En 1961, il y avait 15 000 étudiants au Maroc. L'année dernière, il y en avait 875 000. De 15 000 à 875 000. Et les universités marocaines sont souvent bonnes. Donc c'est un public qui est prêt à une migration, mais qui n'est pas prêt non plus à s'installer définitivement dans un pays. C'est des personnes qui, ayant leur diplôme d'abord, se déplacent beaucoup plus facilement que des très pauvres. Les très pauvres, vous les voyez, par exemple, cette histoire terrible des 650 000 Rohingyas. Où vont-ils? Ils viennent pas en Europe. Les Rohingyas, les pauvres, viennent à la frontière du Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, parce que ils n'ont pas de ressources en diplôme, en compétences utilisables dans des pays développés.
Hervé Le Bras, les moyens de communication, la progression de l'éducation, le monde à portée de main avec une circulation facilitée ont favorisé la mobilité. La nature même des migrations a changé. C'est ce que vous rappelez dans votre essai « L'âge des migrations » paru aux éditions Autrement. Qu'il faille, face à cela, revoir nos politiques d'accueil est une évidence. Mais vous avez procédé à une archéologie des migrations pour essayer de replacer le débat sur un temps long. Comment le passé éclaire-t-il la situation actuelle? Puisqu'on doit changer et s'adapter, qu'est-ce que nous dit le passé par rapport à aujourd'hui?
Ah, oui, j'ai été très intéressé. J'ai collaboré avec Dominique Garcia qui dirige l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est eux qui sont mis à contribution quand on a un chantier d'autoroute et qu'on tombe sur des restes archéologiques, on arrête un petit temps le chantier pour voir si c'est intéressant, et puis pour ou le dégager ou le sanctuariser.
On recevait
si
Jean-Paul Demoule la semaine dernière,
et qui venait parler du néolithique. Et c'est Jean-Paul Demoule qui était le fondateur de l'INRAP, qui d'ailleurs, et du coup, qui a participé très largement justement à un congrès international qu'on a organisé et sur le thème migration et archéologie, ou l'archéologie des migrations. Et je trouve la chose la plus intéressante qui s'est dégagée dès le début de ce colloque, c'est une autre vue sur le passé, les débuts de l'humanité, de Homo sapiens. On imaginait jusqu'ici, au fond, qu'il y avait une progression. Le singe passait aux australopithèques, l'australopithèque vers Néandertal, puis ensuite on arrivait à Homo sapiens, cette merveille. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est très différent, et les dernières trouvailles archéologiques montrent que, d'abord, Homo sapiens doit sans doute sa survie comme espèce au fait qu'il est migré. Et sans doute, d'ailleurs, Néandertal et des Australopithèques ont disparu parce qu'ils étaient un peu comme, au fond, les grands primates. Ils étaient attachés à un milieu particulier. Les gorilles ou les chimpanzés sont attachés au milieu de la forêt équatoriale ou tropicale. C'est d'ailleurs un très beau livre de Pascal Pic le montre. Et l'homme, lui, s'est mis à bouger pour une raison mystérieuse. Certains disent qu'il y a une sorte de gêne de la migration. Et surtout, en bougeant, il s'est mêlé à d'autres populations. On sait maintenant qu'on a une part de sang de Néandertal dans notre patrimoine génétique. On a une part aussi d'un autre humain différent d'Homo sapiens, l'homme de Denisova, trouvé récemment. Et on a une petite part aussi. Et cette petite part nous a vraisemblablement aidé à résister à des facteurs climatiques ou à des maladies qu'on ne pouvait pas maîtriser si on était resté entre nous. Parce qu'on les rencontrait au cours de nos migrations de la même manière qu'on voit que les Amérindiens qui n'avaient pas de défense contre par exemple la variole ou contre la grippe ont été décimés par ces maladies. Et au fond, l'Homo sapiens, grâce à ses migrations et grâce à son mélange avec d'autres populations d'Homo, a pu avoir le succès qu'on connaît maintenant.
Et pourtant ça, on refuse de l'admettre quelque part. Vous écrivez auparavant, on migrait pour survivre, aujourd'hui on migre pour se réaliser. Les migrations des étudiants dans le monde entier annoncent les déplacements à venir. Ce qui reste et ce qui n'a pas évolué, c'est ce que vous appelez la perception biaisée, les fantasmes occidentaux sur ce sujet. Il y a un désir de cerveau, comme il y avait hier un besoin de main d'œuvre, mais il y a aussi une peur et un rejet de l'autre qui est en permanence réactivé. Vous écrivez à l'image de ces vikings qui surgissent sur leur drakkar, de ces cavaliers uns qui jaillissent au coin d'un bois ou des centaines de milliers d'Arabes que Charles Martel arrêta à Poitiers. Ça, c'est ce que vous nous dites dans l'âge des migrations. Les statistiques, elles contredisent cette thèse de l'envahisseur, la réalité, les faits.
Ben là, dans les cas que vous citez, d'ailleurs, il y a des communications, des chapitres de archéologie des migrations où là on a des spécialistes de ces époques qui en parlent et qui montrent que effectivement les traces des Vikings en France sont pratiquement impossibles à trouver. Et les seules traces fortes, c'est des noms Vikings en Normandie et puis au fond le Pays de Caux, dans la Seine-Maritime, mais on est en mal de trouver d'autres traces. De même sur les Arabes à Poitiers, alors là il n'était pas dans notre colloque, mais Bernard Lewis, l'historien américain du fond du monde arabe, a montré qu'il n'y a aucune trace de bataille à Poitiers dans les chroniques de l'époque et surtout dans les chroniques dans le monde arabe, qui était un monde souvent plus développé à l'époque de la soi-disant bataille de Poitiers. Donc là, c'est ce qu'on appelle le roman national dans son aspect, au fond, qui est le plus négatif, parce que ça habitue à avoir cette peur de l'invasion. Mais inversement, vous avez dans le monde arabe la même peur. Vous savez comment ils appellent, les extrémistes parlent des croisés. Donc, ils se réfèrent à cette époque très ancienne des croisades où on a cherché et on a...
Qui a quand même existé, quand même, là.
Ça a existé, mais oui. Enfin, c'est quand même une toute partie. Petite partie de l'histoire arabe. Il serait d'ailleurs mieux fondé et ils le font moins, à penser à la colonisation, parce qu'après tout, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Libye ont été colonisés, et ça de façon assez récente par l'Europe.
Alors, un autre récit est-il possible, Hervé Le Braz ? Peut-on écrire un autre roman migratoire que celui qui occupe nos esprits aujourd'hui ? C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Hervé Le Braz, démographe et historien, auteur de l'âge des migrations aux éditions Autrement, est notre invité. Il est 13h15 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Hervé Le Braz, vous nous rappelez que l'étude des migrations étudiantes, qui sont en augmentation mais pas majoritaires, nous renseigne sur le nouveau régime mondial dans lequel nous sommes, avec un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Quel moment vivons-nous ? Je vous propose d'en revenir à l'année 2015, qui a vu débuter ce que le langage courant appelle aujourd'hui la crise des migrants, avec Raphaël Glucksmann, auteur l'an passé de Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes, aux éditions Alary. Écoutez ce qu'il en dit, et vous dites-nous si vous y voyez peut-être la possibilité dans ce moment de redéfinir ce que nous appelons nos identités.
Je pense que le sentiment de départ, c'est le sentiment que se joue en ce moment un moment historique, que le type de société dans lequel nous voulons vivre, eh bien, se décide maintenant, et qu'il était important, primordial, que face à une vulgate du repli, s'exprime une France solidaire et qui semble tout d'un coup à la traîne de l'opinion allemande ou d'autres opinions européennes. On s'est rendu compte en fait que les supporters de foot allemands étaient plus à la pointe du combat pour les valeurs humanistes que les intellectuels ou les politiciens français. Et c'est une grande remise en question de ce qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, quand des réfugiés syriens traversent les frontières, eh ben, ils n'ont pas une photo de la République française ou du président de la République, ils ont une photo de Angela Merkel. Et à mon avis, c'est un moment de redéfinition de ce que c'est qu'être français. C'est-à-dire que c'est pas seulement sauver la vie des réfugiés, les accueillir, c'est aussi savoir qui nous sommes.
Raphaël Glucksmann, en 2015, au lendemain de son appel lancé à lutter contre l'indifférence, la France, à l'image peut-être de l'Allemagne, à ce moment-là, qui donnait le ton, qui montrait l'exemple d'une certaine manière, est-ce que vous pensez, Hervé Le Bras, que la question migratoire peut nous permettre aujourd'hui de repenser notre projet commun, voire le projet européen ?
Difficilement, parce que, bien sûr, le problème est l'écart entre, et on l'a vu dans ce qui précède, l'écart entre la réalité, entre les faits de migration et leurs perceptions. Et c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer aux perceptions que de s'attaquer aux faits. Donc, comment recoller les deux ? Ça devrait être le travail des hommes politiques. Mais, comme vous le voyez, et on en a encore des illustrations récentes, les hommes politiques ont plutôt tendance, à l'inverse, à chercher à complaire à l'opinion, et de crainte que celle-ci se livre à des votes extrémistes. Donc je suis assez pessimiste sur cette question. On a fait la démonstration par mille moyens que l'immigration est plutôt positive à des tas de points de vue, à des points de vue culturels. Maintenant, les économistes ont beaucoup écrit sur la migration et montrent que dans la plupart des cas, elle a un effet positif sur l'économie. Donc on en est là, et c'est pas moi tout seul qui trouverais le moyen de sortir de ce nœud gordien.
On dit toujours qu'il faut écouter quand même cette inquiétude, même si elle n'est pas forcément fondée. Et quand vous nous dites que finalement les migrants ont toujours eu un plus, un bonus dans l'évolution générale, ceux qui ne migrent pas précisément, ceux qui ne se sentent pas une âme de migrant, n'ont-ils pas en partie raison de penser que leur système de vie est menacé par la situation migratoire ?
Oui, mais si vous voulez, ceux qui ne migrent pas, il y a une enquête de Eurobaromètre sur les désirs de migration dans les pays européens, dans les pays de l'Union européenne. 24% des Français disent qu'ils souhaiteraient migrer. Et d'ailleurs, quand les Français migrent, je l'ai rappelé, 200 000 d'entre eux quittent chaque année la France. On ne les appelle pas des migrants, on les appelle des expatriés. Vous voyez, parce que, bien sûr, quand ces expatriés arrivent au Canada, on les appelle des immigrés. Mais il y a une sorte de trouble de la perception qui fait que ce que nous, on fait, on considère que c'est très différent de ce que eux, ils font. Alors nous, on dira, nous, c'est nos élites qui s'en vont. Et puis eux, et je trouve le terme qui a été rappelé, je le regrette, par Macron, le terme de misère employé est du type de mauvaise publicité sur l'immigration. Comme je l'ai dit, ce ne sont plus des miséreux en majorité, c'est des gens diplômés qui arrivent, y compris même de Syrie. Bon, c'est pas forcément des diplômes des doctorats universitaires, mais c'est souvent, par exemple, de très bons boulangers ou de très bons plombiers. Bon, ben, c'est ce que j'appelle aussi des personnes diplômées. C'est pas de la misère, vous voyez.
Et l'intégration ?
Alors, l'intégration, elle pose problème. Au niveau souvent de la seconde génération de l'immigration, parce que c'est vrai que la première génération venait de pas simplement d'une culture, je dirais d'un milieu social extrêmement différent. Maintenant, un jeune ingénieur qui arrive du Maroc, il est intégré, il parle, il a eu une partie de ses études en français. On vante, et à juste titre, la francophonie, mais cette francophonie, elle fait en sorte que les personnes diplômées qui nous arrivent d'Afrique ou bien qui nous arrivent du Maghreb parlent un bon français. Donc l'intégration a plutôt bien fonctionné. Alors là aussi, une fois j'avais repris dans une petite réunion Jean-Marc Ayrault, qui était bien disposé, mais qui disait, qui avait adopté ce thème, la panne de l'intégration. Bien sûr, il y a une panne pour quelques-uns, c'est un phénomène très divers, mais dans l'ensemble, l'intégration a plutôt bien fonctionné. Ce qui fonctionne mal, c'est une fois que les jeunes issus de l'immigration ont acquis des diplômes, ils ont du mal à trouver du travail. Leur taux de chômage est beaucoup plus élevé que le taux de chômage des jeunes français à diplôme égal. Et là, c'est un problème, mais c'est un problème compliqué. Alors, on a dit, c'est de la discrimination. Pour partie, il y a de la discrimination. Mais pour une autre partie, et ça a été très bien étudié dans le bassin d'Alès par un sociologue, Philippe Bataille, c'est le fait que quand on recrute en France, on recrute parmi ses connaissances, très souvent. Si vous êtes dans l'usine que Philippe Bataille a étudié à Alès, il s'était aperçu qu'il y avait, alors qu'à Alès, il y a beaucoup de migrants qui ont été appelés pour les travaux dans la mine, et que ces travaux sont finis. Dans l'usine de métallurgie dont travaillait Philippe Bataille, c'était le syndicat CFDT, s'est aperçu qu'il n'y avait aucune personne issue de l'immigration. Et pourtant, ces gens étaient pleins de respect pour la migration. C'était pas du tout par xénophobie, mais quand un poste se libérait, ils plaçaient un de leurs enfants ou un de leurs copains de classe. Autrement dit, ce que les migrants n'ont pas, c'est un réseau de relations. Et là, il y a une différence, et c'est très difficile de surmonter cette différence, d'où ces problèmes de discrimination. C'est ce type de problème auquel on est confronté, mais il faut les regarder de près. Et quelquefois, justement, quand on prononce seulement le mot discrimination, qui est un mot beaucoup plus moral, on n'entre pas dans le mécanisme fin au fond de cette différence qui se produit en termes de chômage.
J'ai du mal à comprendre, à Valbras, si vous voyez d'un bon œil ou d'un mauvais œil ce nouvel âge des migrations étudiantes. Parce que vous nous dites aussi que ce nouvel équilibre mondial des compétences qui se mettent en place pose un certain nombre de problèmes. Vous parlez d'un monde où l'impérialisme colonial a été supplanté par l'impérialisme culturel. Ces déplacements d'étudiants, quels problème ça pose, selon vous?
Je pense qu'il y a un problème sous-jacent qui est effectivement, effectivement, de plus en plus, les classes moyennes des pays développés vont être confrontées à une concurrence de personnes qui sont formées dans les pays émergents ou dans les pays du Sud. Donc, elles-mêmes seront amenées de plus en plus, au fond, à se déplacer, pas forcément d'ailleurs définitivement. C'est là aussi que le problème de l'intégration est souvent mal posé. On ne demande pas aux Japonais qui prennent des cartes de séjour pour travailler en France de s'intégrer. D'ailleurs, d'une certaine manière, souvent, ils s'intègrent bien, mais une partie d'entre eux repartiront, parfois pour un autre pays, parfois pour le Japon. Donc, on va vers un monde où il y aura beaucoup plus de mouvements, et c'est au fond cela qui est très difficile à accepter, peut-être dans une certaine manière à juste titre, par les populations européennes ou les populations des pays développés. C'est l'idée que elles vont sans doute être contraintes elles-mêmes de bouger.
Mais ce que vous dites, c'est que nos gouvernements ne s'intéressent pas non plus à cette question. C'est comme un angle mort des nouvelles politiques d'immigration aujourd'hui, cette migration étudiante. La France, par exemple, on n'en a pas parlé précisément aussi depuis le début de cette émission, Hervé Lebras, dans ce concert des nations européennes sur cette question migratoire, comment est-ce qu'elle se positionne? On entend de plus en plus d'associations craindre les nouvelles mesures qui sont annoncées dans une loi immigration et asile qui devrait être développée, portée au printemps prochain. Comment vous voyez la politique française, le gouvernement, se positionner sur cette question?
Je suis à la fois inquiet et pas trop inquiet, parce que certain nombre de propositions sont assez déplaisantes, portées par exemple la durée de séjour dans les centres de rétention administrative de 45 jours, elle était de 32 jours d'ailleurs auparavant, à 90 jours, c'est un geste déplaisant, parce qu'on le sait, j'étais d'une commission, la commission Mazot sur les quotas, qui a montré, à la suite d'auditions nombreuses, que ça ne servait à rien. Dans les 10 premiers jours, on sait quel va être le statut d'une personne qui est internée, il faut bien le dire, dans un centre de rétention administrative. Donc c'est des mesures, je dirais, en direction de l'opinion, mais dont l'efficacité est faible. Je vais vous donner un autre exemple, l'idée qu'il va falloir accélérer les reconduites à la frontière. Bah, il y a un problème, et pour reconduire un migrant irrégulier, un étranger qui est en situation irrégulière en France, il faut que cette personne soit acceptée par son consulat d'origine. Or, un certain nombre de pays, par exemple l'Égypte ou même la Chine, acceptent relativement peu. Moins, le taux d'acceptation général, c'est autour de 50%. Donc, on aboutit à des situations compliquées qui sont ce qu'on appelle les ni-ni. Ils sont régularisables, enfin il peut être régularisé à terme, mais dans l'immédiat, ni expulsables. Et c'est ces situations compliquées auxquelles on doit faire face, et donc le gouvernement cherche à montrer qu'il agit dans des conditions comme ça, mais agir, ça veut dire forcer des pays comme l'Égypte à reconnaître plus de leurs compatriotes. C'est pas simple. Alors, une des actions a été ce qu'on appelle la politique de voisinage. Maintenant, des pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb, acceptent de reconnaître un plus grand nombre de leurs concitoyens en échange, par exemple, de cartes qu'on appelle compétences et talents, d'un recrutement par le haut de migrants économiques.
On a lu, Hervé Le Bras, votre confrère Benjamin Boudou, chercheur à l'Institut Max Planck de Göttingen, dans son essai politique de l'hospitalité, appelé à ce que cette question justement de l'hospitalité et de la relation entre l'accueillant et l'accueilli soit réinvestie politiquement, ce concept-là. On a vu aussi dans un rapport annuel publié par Duno pour l'IFRI, Thierry de Montbrial et Dominique David, démontrer que les Européens ont largement gommé la mémoire de leur histoire des migrations, que ce débat sur l'identité que vous évoquiez a vraiment pris le pas sur toutes les autres questions, qu'il n'y a pas de mémoire commune sur cette question-là. Comment faut-il faire, et ce sera la question de conclusion, pour réécrire ce roman migratoire, réinclure cette question dans notre mémoire collective ?
Non, vous me posez une question malheureusement qui est extrêmement difficile. Je suis tout à fait prêt à parler de solidarité, de fraternité, mais la question c'est comment on les met en œuvre dans la situation actuelle. Et je crois qu'on sera obligé de procéder par petits pas, souvent d'ailleurs par des initiatives qui viennent du bas. Je trouve ce qui se passe dans la vallée de la Roya est tout à fait intéressante. Insister aussi sur ce qui se passe à Calais, où il y a un grand nombre d'associations qui font un travail formidable. On voit toujours l'inverse, on voit toujours les policiers en train de charger des immigrés qui d'ailleurs veulent quitter la France, hein, c'est pas, ils veulent pas y rester. Et on ne voit que très rarement toute cette mécanique qui s'est mise en œuvre pour aider ces personnes qui sont dans des situations difficiles. Donc je pense qu'actuellement, hélas, ce n'est pas par le haut que un changement s'opérera, mais il y a des profondes ressources de fraternité et de solidarité par le bas, dans les populations, localement. Par exemple, quand on a beaucoup de populations ont poussé des cris quand on leur a demandé d'accueillir des centres pour réfugiés, et puis interroger, en France comme en Allemagne d'ailleurs, et puis interroger trois mois après, la plupart des habitants disent mais au fond c'est des gens vraiment très bien, on est maintenant content qu'ils soient là. Donc dès que des populations sont en contact assez étroit, elles sentent qu'elles appartiennent à la même humanité, et la politique a du mal à faire ce saut.
Et le sans frontiérisme dont on parle parfois, c'est aussi une sortie par le haut, ou c'est pas du tout d'actualité?
À mon avis, le sans-frontiérisme a été à un moment donné l'idée, une possibilité. C'est, je pense que si à terme on laissait les frontières ouvertes, il y aurait quand même pas mal de remous dans les premières années, parce qu'il y a quand même des espoirs qui sont irréalistes, et puis que progressivement ça se tasserait et qu'à ce moment-là les migrations diminueraient. Mais il y aurait un moment, autrefois je ne le pensais pas, mais maintenant je pense qu'il y aurait un moment qui serait quand même de sérieux chamboulement.
C'était un clin d'œil à l'utopie contemporaine de notre invité la semaine dernière, Francis Wolff, qui était donc avec nous. Merci beaucoup Hervé Le Bras. L'âge des migrations paru chez Autrement est l'un de vos derniers essais, dernier bouquin. Malaise dans l'identité également reprend toutes ces questions, paru chez Actes Sud. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Claire Maillot et Chloé Leblon, Clémence Marie et Henri Leblanc. Avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et Maxime Morin, ensemble ils ont préparé et programmé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Charlotte Roux avec Victoria Asper. Très bel après-midi à tous sur France Culture.